et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, en ce dimanche qui précède le grand jeûne d'automne, les quatre temps arrivent cette semaine, nous sommes invités à nous recentrer sur l'essence même de Dieu, sur l'essence même donc de ce qu'est notre participation à Dieu, et cette essence, c'est la charité. Alors il faut comprendre pourquoi peut-être des Sadducéens et aussi des pharisiens posent cette question piège, parce qu'on ne voit pas en quoi c'est d'abord une question piège. C'est vrai qu'il y a un autre passage qui est chez Saint-Luc où l'optique est un peu différente et où on sent que le docteur de la loi est un peu perdu parmi les 1200 mitzvot à respecter. Bon, quel est le plus grand? Mais ici, ce n'est pas ça le problème. Ici, la difficulté, c'est l'affirmation que le Christ fait de lui-même et on essaye de le coincer en lui faisant dire que c'est lui qu'il faut adorer, qu'il est le plus grand commandement. Alors voyons donc l'unité de ces commandements tels qu'il les révèle, et ensuite l'unité du Christ lui-même. L'unité des commandements, car il nous faut répondre aux détracteurs que sont ici les pharisiens, et que vous pourriez très bien rencontrer dans votre vie, car hélas, ils sont encore vivants. Alors, pas tous, parce que certains sont vraiment morts d'une mort éternelle, mais il y en a encore qui nous embêtent un peu, mais c'est la vie, c'est notre combat spirituel. D'abord, l'unité des commandements. Il nous faut nous coller aux paroles du Christ, qui en fait révèle que Dieu, dans son essence, est amour, c'est-à-dire qu'il est charité. Et donc il est normal que le lien le plus fort, le plus intense, le plus essentiel, c'est de l'aimer. D'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit. Ceci n'a rien de nouveau pour les pharisiens qui l'entendent, ils le savent déjà. Mais il va dans un même temps, dans un temps similaire, révéler qu'il y a un deuxième, qui est bien deuxième, mais qui lui est semblable, qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, petit détour par la logique, notre Seigneur semble avoir fait une rupture de logique, puisque il lui fallut dire normalement, en pure logique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme tu aimes le Seigneur ton Dieu. Mais il y a un détour. Évidemment, notre Seigneur, s'il fait ce détour, c'est qu'il est nécessaire. Ce détour passe par l'amour de vous-même. Est-ce à dire que nous serions des égoïstes? Évidemment non. Il s'agit d'aimer en moi ce que Dieu y a mis, c'est-à-dire le don que je suis de moi-même, que Dieu a fait en moi-même. Je ne suis pas un don à moi-même, justement je suis un don pour les autres parce que je suis déjà un don. Le don à travers l'amour de mes parents, d'un père et d'une mère, et qu'il faut le rappeler aujourd'hui, c'est le don ineffable que je suis et sur lequel je n'ai pas de prise, c'est-à-dire que je ne peux que le recevoir, je ne peux que m'aimer. Vous voyez, c'est affreux, les gens qui pensent qu'ils sont la source d'eux-mêmes, que la nature qu'ils maîtrisent est la source d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois juges et partis, ils ne peuvent donc plus s'aimer. On ne peut aimer que ce qu'on reçoit avec un parfait détachement, avec une parfaite nature, qui est l'humilité et la piété. Voilà donc le détour nécessaire, aimer en moi ce que Dieu y a mis, la créature que je suis, et qui peut dès lors être aimable. Voilà ce que notre Seigneur révèle, la charité est la forme de toutes les vertus, elle est aussi la structure de notre vie et de notre relation à nous-mêmes et aux autres. Alors il était important parce qu'il y a plusieurs hérésies possibles. Le Seigneur va unir ses commandements, et vous pouvez regarder les trois solutions possibles de désunion, qui sont alors des hérésies. Vous pouvez aimer Dieu, ou croire aimer Dieu, indépendamment de toute créature, c'est-à-dire une espèce d'amour d'un Dieu tellement transcendant, ça existe même dans certaines religions, un Dieu tellement transcendant qu'on ne peut que se soumettre, qu'on ne peut pas l'aimer, l'adorer, lui parler. Non, on ne peut que déclarer qu'on est soumis. Et alors, c'est une hérésie grave parce qu'elle fait fi de la création du monde et de vous-même. Très étonnamment, cette même hérésie se retrouve dans le matérialisme le plus absolu, qu'est le marxisme, qui, croyant adorer la matière, finit par la rendre transcendante. C'est un paradoxe, mais c'est un immanentisme, le marxisme, complètement transcendant, tellement que, en fait, ce qu'on adore, ce n'est plus les personnes et le monde que l'on croit exister, enfin qui existe, mais on adore ce qu'on croit pouvoir advenir la société communiste qui n'a jamais existé nulle part, car c'est un songe. Enfin, l'autre hérésie, pas enfin, mais ensuite l'autre hérésie, c'est de m'aimer moi-même. Alors ça, c'est l'hérésie très ordinaire, de m'aimer moi-même indépendamment de Dieu et indépendamment des autres. Ça s'appelle l'égoïsme, c'est assez répandu. Enfin, la vraie dernière hérésie, c'est d'aimer l'homme, et c'est une hérésie très présente, c'est d'aimer l'homme indépendamment de Dieu. C'est-à-dire, c'est un humanisme, mais un faux humanisme, un humanisme dégénéré. Et on le voit, aujourd'hui nous n'avons plus aucune excuse si au XVIe siècle on pouvait comprendre que des humanistes naissent, même si on n'est pas d'accord, mais aujourd'hui on sait à quoi ça mène cet humanisme, c'est-à-dire un amour de l'homme sans Dieu. Un amour de l'homme sans Dieu fait qu'il perd la qualité essentielle de ce qu'est un homme, le don de Dieu, la transcendance qu'il y a déjà en lui, l'image de Dieu, et alors finalement... Pour ceux qui s'annoncent des humanismes très chevronnés dans quelques loges qu'ils grenouillent, eh bien, ils en viennent à désirer que cet homme qu'ils sont censés adorer, on puisse le vendre, l'acheter, le casser, le réduire les embryons, les foutre à la poubelle, etc. Voilà, le bel humanisme sans Dieu ne me fait pas tellement envie, et ni pour le début de la vie, ni pour sa fin, ni pour sa marchandisation. C'est quelque chose qui restera toujours contraire à la nature de l'homme qui comprend le don de Dieu et qui s'inscrit dans un élan surnaturel vers Dieu. Alors, cette unité du Christ, cette unité des commandements est inséparable unité pour la garder vraie. Cela est vrai aussi du Christ, et plus succinctement je vais vous la développer, car c'est à la fois dans la personne du Christ et dans l'Église que cette unité existe. D'abord dans sa personne, vous le savez, vrai Dieu, vrai homme, notre Seigneur, c'est ainsi qu'il provoque les pharisiens, de qui est-il le fils, le Messie ? De David. Il ne leur dit pas qu'il n'est pas le fils de David, il dit très bien, vous avez raison, il est fils de David parce qu'il est vraiment homme. Mais comment peut-il dire que son fils est le Seigneur ? Et voilà, c'est la révélation de l'incarnation qui va transcender, qui va habiter la chair dans le Christ. Il est vraiment Dieu et vraiment homme. Vous le savez, de nombreuses hérésies ont parcouru les débuts de l'Église. Elles ne sont, là aussi, malheureusement pas mortes. Elles existent toujours. Les premières hérésies ont été de la contestation de l'humanité du Christ. On s'est dit, effectivement, avec tous ces miracles, cette résurrection, c'est vraiment Dieu. Alors, c'est pas vraiment un homme. Faut pas rire, quand même. Dieu ne peut pas venir en un homme. Alors, c'est toutes les modalistes qui se sont dit « Dieu est apparu dans un homme, en Jésus-Christ, il a fait semblant, il a pris un masque pour se rendre visible à nous. » Oui, mais si Dieu a fait semblant de prendre la chair humaine, notre chair humaine n'est pas sauvée en vérité, mais seulement en semblance. Et puis, les siècles d'après ont fait l'inverse, après qu'on leur a bien expliqué que non, Jésus-Christ était vraiment homme, et bien ils ont bien compris, et alors après on s'est dit, alors il n'est pas Dieu, n'est-ce pas, hein? C'est un avatar de Dieu, c'est une manifestation de Dieu, c'est l'arianisme. Et malheureusement cet arianisme, vous le savez, est très présent, il est, j'appelle ça une hérésie inconsciente, je ne sais pas si c'est très juste théologiquement, mais enfin, ça court parmi tout le monde, tous les gens que vous rencontrez, qui savent que Dieu, que le Christ a existé dans son humanité, pensent que c'était un homme extraordinaire, mais que voilà, qu'il y a un message tout à fait divin éventuellement, tout à fait sacré, mais que lui-même n'est pas Dieu quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il a montré le meilleur de lui-même, c'est un Bouddha. Voilà. Et bien non, notre Seigneur n'est pas un Bouddha parce qu'il est le Seigneur lui-même, il est vraiment homme et vraiment Dieu. Cela vient de ce que dans l'humanité, nous n'arrivons pas à concevoir de prendre quelqu'un en nous sans le digérer ou l'écraser. Eh bien, on pourrait prendre un exemple, si vous mangez un œuf, hein, l'abbé Laurent mange un œuf, eh bien, au bout d'un moment, il n'y a plus d'œuf, parce que je digère l'œuf, je l'écrase, je le digère. Alors on pourrait comprendre, parce que je pourrais prendre une autre analogie qui est plutôt versus Dei, c'est l'enfantement. C'est qu'une femme, quand elle a un enfant dans le ventre, eh bien, elle ne va pas le tuer, c'est l'inverse, elle ne va pas le digérer, le casser, etc. C'est tout l'inverse, c'est que, justement, il va surgir une vie, il peut y avoir deux vies, dans une personne jusqu'à ce que celle-ci ait atteint son... Mon analogie s'arrête ici, car en Dieu, vous le savez, il n'y a pas de séparation possible. Dieu est pleinement homme, pleinement Dieu, parce qu'il a pu intégrer à sa divinité son humanité sans la détruire. Quelle bonne nouvelle, mes bien chers frères, pour nous et pour l'éternité. Nous pourrons être plongés en Dieu sans être écrasés dans le grand tout, dans tout ce que vous entendez, dans, je sais pas quoi, dans le dharma, le, je sais pas quoi, où on n'existera plus. Non, Dieu est suffisamment grand, infini, pour nous contenir tous sans nous détruire, puisqu'il nous veut. Eh bien, cette unité du Christ, qui est à la fois Dieu et homme, il faut l'étendre à son corps mystique qui est l'Église. Je le dis et je le répète presque à toutes mes homélies, et je le fais maintenant. Le corps du Christ, le Christ, plutôt l'Église, pardon, c'est le corps mystique du Christ répandu et communiqué jusqu'à la fin des temps. C'est ça l'Église. C'est pas une construction humaine. C'est pas une construction politique. C'est le Christ lui-même qui s'avance dans ses sacrements, sa foi et sa hiérarchie à toute l'étendue du monde jusqu'à la fin de la terre. Voilà pourquoi par les sacrements nous sommes introduits dans ce corps et que nous sommes faits chrétiens, c'est-à-dire du Christ lui-même, Christianus. Nous sommes introduits au Christianie, parce qu'on est nombreux, eh bien, nous sommes introduits en lui par les sacrements, nous y restons par la vigueur de la foi et nous nous unissons à la hiérarchie établie dans le monde par le Christ. Voilà pourquoi nous devons combattre pour que la hiérarchie soit toujours plus pure. Nous devons combattre pour garder la foi. Nous ne pouvons pas nous l'abandonner sous prétexte d'être gentils ou d'être faire des choses avec tout le monde. C'est faux. Nous ne pouvons pas négliger les sacrements qui nous incorporent dans cette unité du Christ. Voilà notre combat spirituel qui durera le temps de notre vie et qui durera jusqu'à la fin du monde, car tel est l'enfantement de l'Église à travers le monde, dans sa souffrance et même sa mise à mort, qui doit arriver à la résurrection bienheureuse à travers la coopération que vous aurez faite pour elle. Ainsi soit-il.